Vous écoutez RFI, il est 22h à Paris, 20h en temps universel.
Andréane Mélard.
Bienvenue si vous nous rejoignez. Le journal en français facile tout de suite sur la radio du monde et je vous le présente avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Andréane, bonsoir à tous.
À la une de ce mercredi, le premier débat entre candidats démocrates aux États-Unis, un débat divisé en deux vu le nombre record de prétendants. Tous n'attendent qu'une chose, faire la différence. En Syrie, les bombardements continuent à Idlib dans le nord-ouest du pays. En deux mois, une vingtaine de centres médicaux ont été attaqués dans la zone. La fin de l'enquête préliminaire sur l'incendie de Notre-Dame, la cathédrale, la piste criminelle a été écartée par le parquet.
Le journal, en français facile.
Un premier débat pour la primaire démocrate a lieu aujourd'hui aux États-Unis, plus précisément en Floride, à Miami. 20 des 24 candidats à être dans la course vont débattre entre ce soir et demain.
La primaire démocrate qui va déterminer qui sera celui ou celle qui va affronter l'actuel président américain Donald Trump lors des présidentielles de l'année prochaine. Ils sont 10 à s'affronter donc ce soir, ils seront 10 demain. Parmi eux, certains ont déjà un peu d'avance dans les sondages, mais tous ont un objectif aujourd'hui, se démarquer. Explication à Miami, Anne Corpé.
Jusqu'à présent, les candidats ont évité de s'affronter brutalement. Seul Joe Biden, qui fait la course en tête, a été critiqué par ses rivaux après une remarque sur les relations courtoises qu'il a entretenues avec des élus ségrégationnistes. Mais le ton est resté très polissé entre rivaux démocrates. La majorité des prétendants se sont contentés de présenter leur programme, de collecter des fonds et surtout de conspuer Donald Trump. Pour la première fois, ils devront tenter de tirer leur épingle du jeu face aux concurrents de leur parti. Ils ont été séparés en deux groupes. Ce soir, c'est Elizabeth Warren qui occupera le devant de la scène. La sénatrice du Massachusetts, troisième dans les sondages, talonne l'ex-vice-président. Elle sera notamment entourée de Cory Booker, élu afro-américain du New Jersey, et de Beto O'Rourke qui a fait sensation dans le Texas pendant la campagne des midterms. Ces candidats sont relativement connus du grand public. Ils chercheront à créer l'événement. Pour les autres participants au débat, il s'agira surtout de capter la lumière, de susciter un intérêt suffisant pour pouvoir rester dans la course. Et cela ne sera pas facile. Chaque candidat n'aura en tout qu'environ 8 minutes pour s'exprimer. Anne Corpé, Miami, RFI.
Donald Trump, le président américain qui s'est exprimé lui sur un autre sujet ce mercredi, s'il devait y avoir une guerre contre l'Iran, elle ne durerait pas très longtemps, a-t-il déclaré, et je ne parle pas des troupes au sol, a ajouté le dirigeant tout en précisant ne pas espérer un tel conflit. D'après lui, les dirigeants iraniens seraient, je cite, stupides et égoïstes de ne pas chercher un accord. De son côté, le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que son pays ne cherchait la guerre avec personne, pas même les États-Unis. Les tensions toujours très présentes entre les deux pays, notamment concernant l'accord sur le nucléaire que les États-Unis ont quitté en mai 2018.
En Syrie, les bombardements continuent sur la région d'Idlib où sont retranchés les derniers groupes djihadistes de Tahrir al-Sham, lié à Al-Qaïda.
Selon une ONG, la dernière attaque en date a entraîné la mort de 2 secouristes et de 7 civils. La population civile est donc elle aussi touchée. L'ONU dénonce notamment le bombardement des hôpitaux par la Russie, alliée au régime syrien. Hier soir, au Conseil de sécurité des Nations Unies, le sujet a provoqué de vifs échanges entre les représentants de différents pays réunis. Muriel Paradon.
En 2 mois, une vingtaine de centres médicaux a été attaqué dans la région d'Idlib. Pourtant, ces structures donnent leur localisation précise aux acteurs du conflit pour être épargnés. Alors à quoi servent ces informations ? L'ONU pose la question et demande à la Russie des explications, mettant en cause à demi-mot l'allié du régime syrien dans les frappes contre les civils. En vidéoconférence de Damas, Alexei Bakin, chef du Centre russe pour la réconciliation des belligérants, dément.
Nous démentons catégoriquement toutes ces supputations qui affirment que les forces gouvernementales mèneraient des frappes aveugles sur Idlib. Nous regrettons que les ONG antisyriennes répandent de fausses informations trompant ainsi la communauté internationale et protégeant de fait les terroristes de Hayat Tahrir al-Sham.
L'ambassadeur de France à l'ONU, François Delattre, met en garde contre ces propos d'Alexei Bakine, chef du Centre russe pour la réconciliation.
Le Centre russe pour la réconciliation n'est ni un acteur humanitaire, ni une agence onusienne. C'est une émanation du ministère de la Défense russe, qui est une partie active au conflit et dont les informations doivent être prises comme telles.
La France critique envers la Russie, les États-Unis aussi, qui appellent Moscou à faire davantage pour protéger les civils à Idlib.
On parlait de Donald Trump qui s'est exprimé à propos de l'Iran aujourd'hui. Le président américain a aussi réagi à la photo d'un père et de sa fille, tous deux migrants et morts en tentant de rejoindre la rive américaine.
Cela me fait horreur, a réagi le président américain. Le migrant salvadorien et sa fille décédés dans le Rio Grande au Mexique. Ce cliché qui circule depuis quelques jours dans les médias et sur les réseaux sociaux. Donald Trump en a profité pour tacler ses adversaires démocrates qui veulent, selon lui, des frontières ouvertes et cela veut dire des gens qui se noient. Fin de citation. Au Venezuela, le gouvernement accuse la Colombie, le Chili et les États-Unis d'être responsables de ce qu'il appelle une tentative de coup d'État militaire ce mercredi. Un coup d'État qui prévoyait l'assassinat du président Nicolas Maduro, selon le ministre vénézuélien de la Communication, et qui a ajouté que celle-ci avait été déjouée.
Sur la mer Méditerranée, 42 migrants qui, eux, sont bloqués à bord du navire humanitaire affrété par l'ONG allemande Sea-Watch.
Le bateau qui se dirige vers le port italien de Lampedusa. Pourtant, mardi, la Cour européenne des droits de l'homme avait refusé d'intervenir en urgence en Italie. L'Italie qui refuse de voir le navire accoster dans l'un de ses ports. « Je sais ce que je risque », a écrit la capitaine allemande du navire sur Twitter, ajoutant « Je les emmène en lieu sûr ». Ruben Neutschbauer est le porte-parole de Sea-Watch. Il nous raconte l'entrée du navire sur les eaux italiennes.
Nous avons pris cette décision car la situation est urgente à bord. Nous avons étudié toutes les options. Le recours déposé à la CEDH était la seule solution qu'il nous restait avant de devoir entrer dans les eaux italiennes. Mais la CEDH a déclaré que la responsabilité italienne ne pouvait pas être engagée tant que notre bateau se trouvait dans les eaux internationales. Donc, nous n'avions qu'une option, entrer dans le territoire italien et trouver un pays qui veuille nous prendre en charge. Nous avons demandé à tous les États européens et aucun d'entre eux n'était prêt à prendre les choses en main pour faciliter l'accueil des migrants. C'était notre unique option. À bord, les conditions physiques et mentales des migrants se dégradent. Nous ne pouvons pas attendre que chaque personne devienne une urgence médicale pour prendre une décision.
Voilà donc
des propos recueillis par Camille Montagu.
En France, deux mois après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le parquet a clos l'enquête préliminaire qu'il avait confiée à la brigade criminelle.
Les images des flammes qui rongeaient le toit de la cathédrale Notre-Dame avaient fait le tour du monde. Elles avaient suscité beaucoup d'émotions. Selon le rapport dévoilé aujourd'hui, ce serait bien un accident qui a entraîné cet incendie. Plusieurs pistes sont évoquées, comme celle d'un mauvais fonctionnement du système électrique ou d'une cigarette mal éteinte. Les suites de l'enquête maintenant entre les mains de trois magistrats. Franck Alexandre.
Depuis le sinistre, d'immenses tentes occupent le parvis de Notre-Dame. Poutres noircies, fils électriques et même bouts de mégots extraits de la cathédrale y sont minutieusement répertoriés. Parallèlement, les enquêteurs de la brigade criminelle ont mené une centaine d'auditions de témoins, notamment des ouvriers, des vigiles et des responsables des entreprises intervenant sur le chantier de rénovation qui était en cours sur l'édifice. Plus de 1000 feuillets de procédure, 96 scellés, sont déjà venus étoffer le dossier et jusqu'ici, dit le parquet, aucun élément ne permet d'accréditer l'hypothèse d'une origine criminelle de l'incendie. Néanmoins, le procureur de Paris, Rémy Hetz, indique que des défaillances ont été mises en évidence. Ainsi, certains ouvriers œuvrant sur l'échafaudage surplombant le toit ont reconnu avoir fumé malgré l'interdiction. Par ailleurs, alors qu'ils étaient formellement proscrits, l'existence de dispositifs électriques a été mise en évidence sous les combles. L'information judiciaire prend désormais le relais de l'enquête préliminaire. Trois juges d'instruction ont aujourd'hui la lourde tâche de découvrir l'origine exacte de l'incendie. Les investigations techniques forcément complexes pourraient durer des mois.
Vous écoutez RFI, il est 22h10 à Paris, 2h de moins en temps universel.